Le psaume 63, un psaume qui proclame avec ferveur la force du lien qui existe entre Dieu et le croyant. La force qu'il y a à s'approcher au quotidien du Dieu de la Bible. Au cœur de ce mois d'août, je nous invite à nous arrêter pour la deuxième fois sur ces paroles de David, des paroles écrites il y a bien longtemps, mais toujours pertinentes. Et qui nous pousse, en tout cas aujourd'hui, à nous questionner sur notre lien avec Dieu. Et je vous ai proposé d'entrer dans ce questionnement en le découpant en deux temps. D'abord, dans une première prédication au début du mois, nous nous sommes intéressés sur la base de ces versets à la manière dont Dieu nous appelle à entrer en relation avec lui. Et nous avons vu trois mots-clés pour décrire cet état d'esprit dans lequel nous devons venir à Dieu. Je résume rapidement. Le premier mot était « respect ». Ô Dieu, tu es mon Dieu. Ô Dieu. Quand nous approchons de Dieu, nous approchons d'un être infini. Aussi, nous sommes appelés à le faire avec un grand respect. Mais un respect, avions-nous dit, rempli de paix et d'assurance, car porté par les mérites parfaits du Christ. Ensuite, le deuxième mot était « priorité ». Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est-à-dire, tu es le premier dans ma vie et je veux donc apprendre à te laisser cette première place dans chaque lieu de mon existence. Car, comme le dit David, ton amour vaut bien mieux que la vie même. Et puis enfin, le troisième mot était intimité. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche, je languis après toi. Ou le cri d'un cœur qui aspire ardemment à une relation de grande proximité avec son Dieu. Oui, le psaume 63 nous encourage à venir vers Dieu avec respect, priorité et intimité. Ceci est la première chose que nous avons découvert. Et donc aujourd'hui, après avoir vu cela, nous allons poursuivre notre questionnement, mais nous allons maintenant nous concentrer sur une autre interrogation, la suivante. Comment, à présent que nous avons vu la nature de ce lien, comment l'entretenir au quotidien? Comment vivre pleinement à l'image de David cette relation profonde, respectueuse, prioritaire et intime avec notre Dieu? Et ce psaume nous donne, me semble-t-il, quelques pistes de réponse. Nous allons voir plus exactement ce matin trois pratiques que David nous partage pour enrichir jour après jour notre lien avec Dieu. Trois pratiques. Chanter à Dieu, réfléchir sur Dieu et se réfugier en Dieu. Et nous allons les détailler l'une après l'autre et j'espère vraiment qu'elles nous encourageront à désirer nous rapprocher toujours plus de Dieu. Voilà pour le plan. Et on démarre de suite avec le premier point. Chanter à Dieu. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, dit David. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Louer Dieu, adorer Dieu au moyen de nos chants. Voici la première pratique que David met devant nos yeux pour enrichir notre lien avec Dieu. Alors, il est vrai, pour être tout à fait exact, qu'au lieu de « mes lèvres chantent tes louanges », le texte original semble plutôt dire « mes lèvres célèbrent tes louanges ». C'est ce qui m'a semblé constater en comparant différentes traductions. Et c'est la version du Semeur, comme on l'a ici, qui a choisi d'utiliser ce terme plus précis de « chanter ». Mais ceci nous montre donc, avant d'aller plus loin, que ce qui compte en fait quand on parle de louange à Dieu, c'est surtout l'action de nos bouches qui exprime, qui célèbre notre adoration pour lui, plus que la forme que cela peut prendre, le chant ou la parole. Ça, c'est une certitude. La forme n'est jamais l'essentiel. Mais néanmoins, si vous me le permettez, j'aimerais quand même garder cette traduction de la Semeur pour mettre un accent particulier ici sur la richesse de la louange chantée quand nous voulons cultiver notre lien avec Dieu. Sans diminuer tout autre type de louange, donc. Mais je voudrais quand même y mettre l'accent pour deux raisons, en fait. D'abord, à cause de l'omniprésence que nous voyons de cette pratique à travers les textes et les époques bibliques. Oui, et je crois que nous pouvons le dire, Dieu a choisi, parmi tous les arts existants, le chant et la musique comme moyen tout particulier, peut-être, pour que nous lui exprimions notre adoration. Je vous cite juste quelques versets qui balayent l'histoire biblique afin qu'on puisse voir cette constante apparaître. Écoutons Moïse tout d'abord, après la délivrance du pays d'Égypte. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le louerai et je l'exalterai. Écoutons l'auteur du psaume 104, magnifique poème de louange adressé au Dieu créateur, qui conclut de la manière suivante. Je veux chanter pour l'Éternel toute ma vie durant. Je veux célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Et puis, contemplons aussi l'attitude dans le livre des Actes de Paul et Silas, en prison à cause de l'Évangile. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et enfin, un dernier texte dans la lettre aux Éphésiens. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui, on le voit, le chant de louange traverse la Bible du début à la fin. Et c'est donc la première raison qui vient nous pousser à lui donner une vraie place dans le vécu de notre lien avec Dieu. Et puis ensuite, la deuxième raison sera tout simplement liée à notre expérience et à cette constatation que la musique a quand même une capacité unique pour toucher en nous une corde ou une sensibilité, je dirais, que le reste atteint plus difficilement. Oui, la musique et le chant parlent tout particulièrement à nos émotions et ils leur permettent d'avoir toute leur place au cœur de notre louange pour Dieu. Alors c'est vrai, on est parfois un peu méfiant quand il s'agit de parler de nos émotions, parce qu'on sait qu'elles peuvent sans doute parfois nous échapper ou nous dépasser. Et cette méfiance est certainement légitime. Mais je me dis qu'il ne faudrait pas non plus, sous ce prétexte, les étouffer ou même juste les atténuer, car c'est aussi avec notre sensibilité et nos émotions que Dieu nous a créés, et c'est donc aussi avec notre sensibilité et nos émotions qu'il veut que nous l'adorions. Et cela, me semble-t-il, la musique, effectivement, le favorise grandement. Alors oui, pour ces deux raisons, faisons une vraie place au chant de louange. Dans l'Église, bien sûr, et nous le faisons déjà, évidemment. Mais aussi, je dirais, faisons-lui place, pourquoi pas, dans nos vies individuelles, au quotidien. Et nous avons le privilège de vivre à une époque qui nous permet, justement, via différents outils, de profiter de chants de louanges qui sont à notre disposition. Et donc des outils à utiliser, non pas juste comme un bruit de fond, mais aussi pour notre culte personnel et pour faire monter vers Dieu notre adoration solitaire. N'hésitons pas, au cœur de notre relation avec Dieu, utilisons ce bel art qui fait partie de sa création pour lui rendre gloire. Le chant, donc, comme premier élément partagé par David ici pour enrichir notre lien avec Dieu. Et on continue maintenant avec une deuxième pratique à vivre au quotidien. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Notre deuxième élément, c'est méditer sur Dieu. Mais alors, on pourrait se demander de quoi est-ce qu'on parle ici exactement. On pourrait se demander à quoi David nous encourage-t-il ici exactement. Est-ce à cette méditation dérivée des religions orientales à base d'exercices, de relaxation ou de respiration? Est-ce cela que David dit? Non, je ne pense pas. Est-ce cette contemplation mystique de Dieu qu'on réserve habituellement aux ordres monastiques dont parle David ici? Non plus, je ne pense pas. Non, méditer veut simplement dire ici, je crois, prendre du temps dans nos vies pour réfléchir à Dieu et sur Dieu. Rien de plus en fait, mais peut-être déjà beaucoup. Et alors, de manière pratique, on pourrait se demander à quoi méditer, à quoi réfléchir concrètement. Et je vous propose quelques pistes. Méditons d'abord peut-être sur la nature de Dieu. Oui, prenons du temps dans nos vies pour admirer Dieu dans ce qu'il est, le Dieu grand et majestueux. Réfléchissons sur son infinité, sur la beauté de sa création, sur le mystère de sa nature trinitaire, et ainsi de suite. Ensuite, méditons sur l'amour de Dieu, bien sûr. Prenons du temps là aussi pour comprendre ce qu'est vraiment cet amour et ce qu'il implique concrètement pour nous. Réfléchissons par exemple à la patience de Dieu au quotidien ou à sa compassion et voyons quelles en sont les conséquences concrètes pour nous, les conséquences pratiques. Réfléchissons à la promesse de la bonté de Dieu à notre égard en toutes choses, même au cœur de l'épreuve. Quel sens a-t-elle? Réfléchissons à sa grâce, tout simplement, et à la profondeur des conséquences de cette grâce pour nos vies. Ou encore, autre piste, méditons également sur la volonté de Dieu. Oui, prenons du temps en nous-mêmes pour chercher à comprendre pourquoi Dieu donne tel commandement et quel en est l'objectif. Réfléchissons à ces directives précises comme aux principes généraux qu'il nous laisse pour nous permettre de prendre les bonnes décisions. Réfléchissons aussi sur l'espace de liberté qu'il nous offre au cœur de ses commandements, à comment le vivre selon ce que nous sommes et pour sa gloire. Et la liste pourrait s'allonger. Oui, il y a de nombreux points sur lequel nous pouvons nous arrêter et passer du temps à réfléchir. Et pourquoi faire cela? Eh bien, tout simplement parce qu'ainsi nous allons inévitablement apprendre à mieux le connaître et donc à grandir dans notre relation avec lui. Oui, en méditant sur la nature de Dieu, je ne pourrai que grandir dans le respect et l'adoration que j'ai pour lui. En méditant sur son amour, je ne pourrai que grandir dans la compréhension de la manière dont il me considère et donc dans la joie de vivre pour lui en priorité. Et en méditant sur sa volonté, je ne pourrai que grandir dans ma route vers une vie de plus en plus intime avec lui. Oui, réfléchir sur Dieu, comme le faisait David, est une belle et riche pratique. Et j'espère qu'elle nous fait envie. Et si c'est le cas, si elle nous fait envie, je pense qu'il y a alors, avant qu'on termine là-dessus, peut-être deux nécessités très pratiques à relever et à prendre en compte si on veut aller et persévérer dans cette direction. Deux points importants à relever. Le premier sera tout simplement l'importance, quand on veut méditer sur Dieu, d'être avec la plus grande des régularités au contact de sa parole. Ça, je crois que c'est une évidence. Si nous voulons réfléchir sur le vrai Dieu, alors il nous faut connaître le livre qui nous parle de lui. Oui, toute méditation chrétienne doit être centrée sur la Bible, au risque sinon de réfléchir à un Dieu différent de celui qu'elle révèle. Il nous faut donc lire la Bible creuser la Bible et nous en imprégner pour qu'ensuite elle puisse vivre en nous et nous permettre ainsi, remplis de ses paroles, de pouvoir méditer sur Dieu. C'était le premier point. Et une deuxième nécessité pratique pour celui qui veut prendre du temps à cela, un défi compliqué pour nous peut-être, chrétiens au XXIe siècle. Je dirais, ce sera simplement apprendre à mettre sur pause toutes les sollicitations extérieures que nous avons pour pouvoir nous concentrer sur Dieu. Et ça, oui, je crois que c'est un défi. Car je ne sais pas si vous faites la même constatation que moi, mais j'ai quand même l'impression, aujourd'hui, que le bruit est devenu comme une addiction pour nous. Dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On allume la radio. Pendant notre footing, pour ceux qui en font, qu'est-ce qu'on fait? On met le casque sur les oreilles. Quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On allume la télé. Et ainsi de suite. Et chacun se retrouvera dans un point ou dans l'autre. Alors je ne veux pas condamner ces choses, elles ont sans doute leur place, pour notre détente notamment. Mais quand même, je ne peux m'empêcher de me dire, quand notre esprit est ainsi toujours occupé de la sorte, comment peut-on encore trouver du temps pour réfléchir aux questions importantes? Oui, quel temps nous reste-t-il pour penser simplement à Dieu dans nos journées? Cela nous serait si profitable si nous arrivions à trouver un temps pour cela. Le psaume 119 nous dit « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace même que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. » Oui, méditer sur Dieu est décidément un bon moyen d'enrichir notre vie et notre relation avec lui. Méditer sur Dieu donc, chanter à Dieu, on l'a vu, et on arrive au troisième et dernier point, au troisième encouragement que nous laisse David ici, qu'on voit apparaître dans ce psaume 63, pour vivre ce lien avec Dieu en profondeur. Ce sera donc ce réfugié en Dieu. Oui, tu es mon appui, dit David. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. David fait le choix dans sa situation de se réfugier en Dieu. Et alors, pour bien comprendre ces paroles, je crois, il nous faut revenir rapidement au contexte dans lequel ce psaume a été écrit. On en a parlé déjà la dernière fois. David est en fuite dans le désert de Juda. En fuite devant Saül, le roi, qui s'est juré de le trouver et de le tuer et qui le poursuit de toute sa haine. Ou bien alors, autre possibilité, plus tardive, les spécialistes hésitent sur la date, David, devenu roi, pourrait être en fuite devant Absalom, son propre fils, qui vient de faire un coup d'État contre lui et qui veut maintenant se débarrasser de ce père qui est devenu gênant. L'un ou l'autre. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire que David est dans une période très compliquée de sa vie. Et c'est souvent dans ces périodes compliquées que ce dernier point, se réfugier en Dieu, est particulièrement essentiel, qu'il est une action primordiale pour maintenir et pour approfondir notre lien avec lui. Car on le sait, il nous est au contraire si facile au cœur des difficultés de prendre le chemin inverse et de nous éloigner de Dieu au lieu de nous réfugier en lui. Parce que on a toujours du mal à conjuguer Dieu avec les épreuves par lesquelles nous passons. Pourtant, la Bible ne nous leurre pas sur cette question. Au contraire, même, elle ne cesse de nous prévenir. Dans le monde, disait Jésus, vous aurez à souffrir bien des afflictions. C'est une certitude. Et c'est une certitude simplement car nous vivons dans un monde marqué par la malédiction du péché et par ses conséquences. Et dans un monde où le diable en est le prince et qu'il n'a pas vraiment l'intention de nous laisser le traverser sans encombre. Votre adversaire, dit Pierre, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Oui, les afflictions sont inéluctables. Pour prendre une autre image, je dirais que nous sommes comme de petits oiseaux qui doivent lutter sans cesse pour empêcher l'aigle de fondre sur eux et de les dévorer. Vous voyez l'idée? Et alors, à ce sujet, je lisais quelque part, savez-vous quel est le seul moyen pour le petit oiseau de lutter efficacement contre un oiseau de proie? Eh bien, il lui faut apprendre à voler au-dessus de lui, parce qu'ainsi l'autre ne peut pas fondre sur lui. Et vous avez deviné, bien sûr, l'analogie qui vient pour nous. Pour tenir bon dans ces épreuves inévitables, il nous faut apprendre à voler plus haut, c'est-à-dire à venir là où se trouve Dieu. Il nous faut nous abriter à l'ombre de ses ailes. Oui, comme David, face au Saül ou aux Absalons de nos vies, réfugions-nous plus haut, en Dieu. Attachons-nous à Dieu, comme dit le texte, et renforçons notre lien avec lui. D'ailleurs, j'ai découvert que le mot utilisé ici pour rendre attaché, hein, je demeure attaché fidèlement à toi, est un mot dont le sens est vraiment très fort. Il s'agit de dabak en hébreu et il traduit les nuances suivantes: s'accrocher, se coller, adhérer, suivre étroitement, être joint ensemble. C'est le même mot en fait que celui utilisé dans ce verset bien connu de la Bible où il est dit « l'homme s'attachera à sa femme ». L'idée est donc vraiment celle d'une immense proximité avec Dieu et d'une volonté résolue d'entretenir et de maintenir au quotidien cette proximité avec lui. Mais alors, concrètement, et on continue, qu'est-ce que ça voudra dire que de nous réfugier en Dieu dans notre quotidien? Eh bien, je dirais trois choses. D'abord, ce sera continuer, envers et contre tout, à nous tourner vers lui jour après jour, à maintenir notre lien avec lui vivant, à ne jamais lui fermer la porte, à ne jamais lui tourner le dos, même dans les temps et les circonstances les plus défavorables. Wang Ming Dao, célèbre pasteur chinois du XXe siècle, emprisonné durant 25 longues années à cause de sa foi, disait « Nous n'avons rien, pas de pasteur, pas d'église, pas de Bible, rien. Mais au cœur de cette épreuve, cet homme et ceux avec lui font le bon choix. Désespérés que nous sommes, dit-il, il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers Dieu. Il ne nous reste plus qu'à continuer à faire vivre notre relation avec lui. Ensuite, se réfugier en Dieu sera apprendre, quand nous nous tournons vers lui, à nous appuyer sur lui au quotidien. Oui, plus encore que de venir à lui, apprenons à nous reposer en lui, à lui remettre nos douleurs, nos luttes, nos peurs, nos défaites et tout le reste. Appuyons-nous sur lui réellement, concrètement. Et puis enfin, se réfugier en Dieu sera également persister à s'attendre à lui. J'entends par là persister à croire avec confiance qu'il va agir pour nous. Pour de vrai. C'est d'ailleurs le cri de David. Il dit « Je m'attache fidèlement à toi » et juste après, il enchaîne en affirmant « Et ta puissance me soutient. » L'image d'un Dieu qui agit vraiment, concrètement. Alors certes, Dieu ne promet pas à chaque fois la résolution de tout mal dans notre vie, comme on le voudrait en tout cas. Nous pouvons demander à Dieu d'intervenir pour une vraie amélioration des choses. Et l'Écriture nous encourage à le faire, avec foi et avec audace même. Et nous croyons que Dieu répond vraiment à ce genre de prière. Mais peut-être parfois certaines situations resteront bloquées. Mais par contre, quoi qu'il arrive, qu'il agisse comme nous le voudrions ou pas, Dieu nous promet avec certitude qu'il demeurera toujours avec nous et que sa puissance nous soutiendra toujours. Aussi, oui, dans l'épreuve, persévérons à nous attacher et à nous réfugier en Dieu, en choisissant de continuer à venir à lui quoi qu'il arrive, en apprenant à nous appuyer sur lui en toute chose et en persistant à nous attendre à lui d'une manière ou d'une autre. Oui, vivons cela dans toutes nos périodes difficiles et même, bien entendu, vivons cela en fait dans chaque période de nos vies. C'est notre troisième point, dernier point. Je termine en résumant ces trois attitudes que nous pouvons offrir à Dieu pour expérimenter toute la richesse que peut avoir notre relation avec lui. Offrons à Dieu nos émotions, chantons à Dieu, élevons nos voix vers Dieu et adorons-le pour tout ce qu'il est et pour tous ses bienfaits. Offrons à Dieu nos pensées également. Méditons sur Dieu. Faisons une pause dans le brouhaha de nos vies pour passer et pour repasser dans notre cœur les vérités de sa nature, de son amour et de sa volonté. Et puis enfin, offrons à Dieu notre vulnérabilité, je dirais. Réfugions-nous en lui. Attachons-nous à lui. Et faisons le choix de continuer envers et contre tout à nous tourner vers lui, à nous appuyer sur lui et à nous attendre à lui. Voici trois pratiques pour tous les jours qui nous permettront d'enrichir et d'approfondir notre lien avec Dieu. Comme David, avec respect, priorité et intimité, chantons à Dieu, pensons à Dieu, réfugions-nous en Dieu. Oui, comme David, encore et encore, venons à Dieu et trouvons en lui, comme il le conclut lui-même dans ce psaume, trouvons en Dieu la source de notre joie. Puisse Dieu nous faire la grâce de désirer vivre ainsi et puisse gloire lui en être rendue. Amen.